Grain de sel, l'émission de la rédaction. Grain de sel.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Grain de sel, c'est votre émission, une émission sur l'actualité de notre territoire. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous accueillons Paul Rondin, le directeur de la Cité internationale de la langue française, qui est à Villers-Cotterêts. Alors, tout le monde a entendu parler de la réhabilitation du château de Villers-Cotterêts et de l'ouverture imminente de la Cité internationale de la langue française. Et nous nous posons tous de nombreuses questions concernant cette Cité internationale, ce monument national. Paul Rondin est là pour répondre à nos questions. Alors, bonjour Paul Rondin.
Bonjour.
Et merci pour votre présence. Je voulais juste commencer un petit peu par vous poser la question sur la genèse de ce projet. Alors, pourquoi Villers-Cotterêts? Donc, le lieu est symbolique, évidemment. Et comment a commencé ce projet d'installer là-bas la Cité internationale de la langue française?
Alors, je ne vais pas vous faire un long cours d'histoire, parce que j'en serais bien incapable, mais vous redire simplement, pour qu'on s'en souvienne, qu'il y a à peu près 500 ans, François Ier a signé l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts en 1539, qui faisait du français la langue de tous les habitants du royaume. On aurait presque pu dire citoyens, mais la Révolution n'était pas encore passée. En tout cas, tous les habitants du royaume, et non pas cette ordonnance qui fait du français la langue du pays pour écraser des langues régionales, mais au contraire pour donner une langue égalitaire entre tous les habitants pour l'administration et la justice. C'est-à-dire que chacun puisse comprendre, entendre et s'exprimer dans une langue unique et pas une langue de confiscation, entre guillemets, confiscation sociale, que pouvait être le latin jusqu'alors.
C'est pour rendre en fait les choses beaucoup plus intelligibles pour tout un chacun, pour
absolument, et créer
tous les Français
de facto une unité. Donc là, nous étions en 1539, on va aller un peu plus vite. Je fais un petit passage par Molière, quand même, qui a présenté la première version du Tartuffe dans le château de Villers-Cotterêts, devant le roi Louis XIV, qui a invité aussi certains de ses contemporains à y jouer, Molière invitant Racine et Corneille, qui étaient bien jeunes à l'époque. Et puis, si je saute un peu encore dans le temps, j'arrive à Alexandre Dumas, qui est né à Villers-Cotterêts, a visité ce château, qui s'est promené aux alentours du château. Il y a fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément à dévoiler à votre micro. Ce sont peut-être des légendes, néanmoins. Et puis, à la Révolution, le château, évidemment, n'est plus un domaine royal, comme on peut l'imaginer, et devient assez vite une caserne pour une garnison républicaine. Mm-hmm. Et puis ensuite, un dépôt de mendicité à une époque tout à fait charmante où Paris envoyait ses pauvres pour ne pas les voir un peu loin. Et quand on dit dépôt de mendicité, on dit quasiment une prison.
Ah oui, à ce point-là, d'accord. Je pensais que c'était plus pour prendre soin d'eux. Voilà.
Vous savez, le prétexte est toujours de prendre soin des gens à leur insu et sans vraiment qu'ils en soient forcément d'accord. Là, vu la manière dont ils étaient gardés, s'il n'y a pas d'autre terme, on ne peut pas dire que c'était tout à fait épanouissant. Et puis ensuite, une maison de retraite. Jusqu'en 2014.
Ah oui, donc c'est vraiment, vraiment d'actualité. La maison de retraite, c'était vraiment encore... il y a encore des gens qui sont passés par là il n'y a pas longtemps.
Il y a 10 ans, il y avait encore quelques personnes. Mmh. Alors là aussi, certains scandales sur les maisons de retraite qu'on a encore tous en mémoire, à côté, passent pour des problèmes de 5 étoiles. Quand on voit l'état dans lequel on a trouvé le château à la fin de cette maison de retraite, si on ose l'appeler ainsi. Donc, vous voyez, un château, une histoire assez curieuse. Pendant 500 ans, il n'a jamais été ouvert au public. Mmh. Il a eu des actions, il a eu des fonctions, mais il n'a jamais été ouvert au public. C'est très important. Mmh. Et puis, après la période royale, il n'est plus entretenu.
Oui.
Il se détériore, parce que faute de moyens, tout simplement.
Oui, oui.
Et il devient une espèce de verrou dans la ville, pour ne pas dire de verrue.
Oui.
Et il ferme, d'une certaine manière, l'accès de la ville à la forêt et réciproquement. Et vous avez au milieu presque de la ville, dans cet endroit si important qui fait le lien entre Villers-Cotterêts et la forêt de Retz, ce château qui verdit, qui moisit sur pied, qui s'abîme.
C'est très intéressant cette vision spatiale en fait du château et de la Cité internationale. Parce que là, quand on parle de Cité internationale, on parle d'ouverture. Et quand on parle de langue française aussi, on parle d'ouverture. Donc, de réhabiliter ce château avec cette volonté d'aller vers les autres et d'aller loin, d'aller vers l'international, c'est très intéressant pour la population locale et pour la ville de Villers-Cotterêts et les alentours.
C'est essentiel et c'est dans l'idée d'élus locaux, d'acteurs locaux, quand ils font visiter, si j'ose dire, puisqu'il n'y a pas grand-chose à voir à ce moment-là, Emmanuel Macron, qui est candidat à l'époque à la présidence de la République, le château, c'est là qu'il décide de lancer une réhabilitation. Mais, et c'est ça qui est en réalité la vraie bonne idée, non pas pour rénover, réouvrir ou ouvrir plus exactement, parce que c'est la première fois qu'il serait ouvert au public un château Renaissance, mais bien en faire un équipement culturel. Oui. C'est-à-dire, on ne fait pas que de la rénovation, on ne fait pas que du patrimoine, on va ouvrir un équipement culturel. Et cet équipement culturel, c'est quoi? C'est à partir de la langue française, avec l'histoire que je viens d'évoquer, mais aussi... on l'oublie parfois, un patrimoine littéraire sur le territoire qui est absolument extraordinaire.
Oui, parce que vous évoquiez Alexandre Dumas, entre autres.
Je peux ajouter Racine, La Fontaine, Claudel. Enfin, la liste est très longue. Oui. Gérard de Nerval. On dit que Sade a passé quelques temps dans un château, etc. etc. Donc, cette idée que tout d'un coup, effectivement, là, à Villers-Cotterêts, sur ce territoire... mal connu et pourtant magnifique, on peut se lancer dans un projet extrêmement ambitieux qui sera cette cité internationale de la langue française.
Donc c'est une ambition politique, c'est une volonté politique de faire en sorte que cette ville s'ouvre, et cette ville, mais pas seulement, cette région, à travers la langue française. C'est parti de là, ce projet, donc en 2000...
Oui, c'est exactement ça, c'est d'allier d'abord le patrimonial au très vivant.
D'accord.
La langue est très vivante.
Oui, tout à fait,
le patrimonial, ce sont de vieux murs qu'on entretient, aussi beaux soient-ils.
Et qui devient vivant grâce à la langue française.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire on met du vivant, non pas dans du mort, mais dans du patrimoine, dans de l'histoire. C'est une histoire vivante grâce à la langue. Mmh. Et ça n'est pas un projet présidentiel seulement, c'en est un bien sûr, mais c'est d'abord un très grand projet, vous l'avez dit, de politique publique de la culture.
D'accord.
Et qui est assez osé. Parce que une cité internationale de la langue française, ça n'existe évidemment nulle part.
Oui.
Et il n'y a pas de modèle, y compris dans le monde. Il y a quelques musées de certaines langues. On en connaît un pour le portugais au Brésil, en Espagne un autre. Les Canadiens ont un musée de la civilisation. Nos amis nord-américains ont aussi un musée qui s'en approche, mais aucun musée entièrement consacré à la langue. D'autant plus que ça n'est pas un musée. La cité, c'est une cité.
C'est une cité, ce n'est pas un musée, donc c'est encore quelque chose de très vivant. Musée, il y a un côté aussi, on se dit, endormi ou quelque chose de figé, pas toujours, maintenant.
Non, tous les musées ne sont pas figés, loin de là.
Et puis, surtout, il y a vraiment une rénovation de tous les musées, actuellement. Tous les musées sont avec beaucoup d'ateliers et très vivants. Mais le côté cité, oui, ça apporte autre chose. Ce n'est pas seulement un musée, on n'y passe pas seulement. Donc, il y a différents ateliers. Pour quel public ? Différentes modules pour quel public?
Alors une cité, si vous me permettez juste de répondre sur le terme cité. Effectivement, ce n'est pas un musée parce que nous ne sommes pas là pour conserver la langue.
Oui.
L'Académie française fait ça très bien.
Et la langue est vivante, vous le disiez tout à l'heure.
Et nous sommes là plus pour animer, pour augmenter notre rapport à la langue, pour nous le réapproprier parfois. Et ceci, pour répondre à votre question au moins partiellement, pour absolument tous les publics, et c'est ça qui en fait un projet passionnant.
Alors, par exemple, ça peut être pour des scolaires, pour la petite enfance, pour, par exemple, des personnes porteuses de handicap. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait pour ces personnes, des handicaps cognitifs, par exemple?
Je peux vous répondre oui à chaque fois.
À chaque fois. Donc ça, c'est extraordinaire.
C'est-à-dire que c'est vraiment l'intérêt. Bravo, je ne sais pas, parce que c'est une fois encore, c'est une mission de service public.
Oui.
N'oubliez pas que c'est l'État qui a investi quelques millions dans ce projet, et c'est l'État qui est porteur vraiment d'un service public de la culture. Donc, quand on est porteur et en responsabilité d'un service public de la culture, on doit être ouvert à tous les publics sans aucune exception.
Bien sûr. Et vous avez déjà des idées donc de ce qui va être proposé, des parcours, différents parcours qui vont être proposés, j'imagine. Quels sont, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples justement de différents parcours de visites ou d'angles que vous avez choisis pour présenter, pour rendre cette langue française attrayante pour les personnes qui vont venir dans cette cité, qui vont participer à cette cité.
Bien sûr. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un château qui est donné à la République, qui est rendu à la République.
Oui.
Et en ce sens, il sera toujours ouvert. C'est-à-dire il est ouvert 6 jours sur 7, toute l'année. Et quand je dis toujours ouvert, il est en accès libre en grande partie. C'est-à-dire vous pouvez entrer par la ville dans ce château et venir n'y rien faire.
Oui,
c'est-à-dire
d'accord.
Juste vous promener, juste vous balader, juste vous poser, comme on dit.
Voilà, être là, se poser, vous prendre du bon temps.
Absolument, regarder, admirer ou ne pas admirer, d'ailleurs, retrouver des amis.
Retrouver des amis, bien sûr.
Vous pouvez aussi traverser entièrement le château. C'est-à-dire que vous pouvez entrer en ville et finir dans la forêt. Vous pouvez entrer par la forêt et finir dans la ville.
Ça me fait penser à la citadelle d'Amiens aussi, qui est complètement ouverte. C'est une université, mais elle est complètement ouverte et on peut la traverser. Et les gens d'Amiens, en fait, peuvent en faire s'approprier cette citadelle qui n'est pas seulement l'université. Ça me fait penser un
Mais
peu à ce genre de projet.
C'est exactement ça. Et il faut absolument que jamais, jamais l'espace public ne soit confisqué. Et plus on peut rendre de l'espace public aux habitants, mieux l'on se porte. Mieux on se porte, pardon. Le fait est que dans ce cas, c'est ce château, je vous l'ai dit, qui n'a jamais été accessible librement et par les habitants du territoire, tout d'un coup, ils pourront y aller quand ils veulent et comme ils veulent. Ensuite, vous pourrez visiter évidemment le château. Il reste trois chefs-d'œuvre de la Renaissance absolument magnifiques que sont l'escalier du roi et l'escalier de la reine, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre sculptés, et la chapelle que nous avons d'ailleurs décidé, outre de restaurer, de garder vraiment vide pour que l'on puisse admirer notamment tout le travail de sculpture de ces trois chefs-d'œuvre.
Ah, très bien.
Une fois que je vous ai dit ça, il y a une salle qui s'appelle Un château, un territoire, qui sera elle aussi en accès absolument libre pour que les gens viennent comprendre ce qu'a été ce château, comment il se situe dans son environnement historique. Et ensuite, ce que nous appelons le parcours permanent de la langue française, de la francophonie, et des cultures francophones pour élargir encore plus et qui sera une, comme disent nos amis canadiens, une véritable attraction.
Et
j'aime bien le terme parce que tout d'un coup il donne une autre image. Vous avez parlé de musée poussiéreux, ce que je réfute par ailleurs, mais c'est surtout pas quelque chose où on va aller admirer des grands panneaux qui vous expliquent doctement les choses.
Et dans attraction, je sens quelque chose d'actif, c'est-à-dire
les
gens qui viendront seront acteurs probablement de leur apprentissage.
Alors,
il y aura des interactions avec...
Il y aura beaucoup d'interactions. Je ne parle pas dans ce parcours d'apprentissage, sauf si on considère qu'à chaque fois qu'on va visiter quelque chose,
on apprend.
C'est là que je vous rejoins. Mais ça n'est pas... la vertu première n'est pas la pédagogie, elle est le plaisir de jouer avec la langue, de comprendre la langue, de comprendre le français. Et j'ai envie de dire, même si ça ne plaît pas toujours aux spécialistes, les français, c'est-à-dire les langues françaises. La francophonie est merveilleuse parce que le français du Québec n'est pas le français au Congo, n'est pas le français à Villers-Cotterêts ou même à Marseille. Et c'est ça qui est passionnant.
Oui, mais on se rejoint quand même sur le français dans les œuvres littéraires. On se rejoint sur un français identique.
Bien sûr, mais l'œuvre littéraire de Marcel Proust et celle de Lionel Trouillot ou d'Édouard Glissant sont écrites en français toutes, mais ce n'est pas tout à fait le même français. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais de la même manière qu'une musique, quand on la dit classique, on la réduit à un genre, à une époque, à une chose un peu ennuyeuse, alors qu'il y a...
Alors qu'on peut, en effet, la transformer, faire danser du rap sur certaines musiques classiques parce qu'on aura un petit peu modifié l'orchestration. Oui, c'est vrai.
C'est bien ce qu'on veut raconter. Cette langue française, elle est faite d'énormément de mots migrateurs. Elle est faite de transformations permanentes. La langue française a absorbé des mots d'autres langues.
Bien sûr.
D'autres langues ont absorbé des mots de la langue française. Donc c'est tout cela qu'on veut se montrer. C'est vraiment une langue en mouvement.
C'est une langue en mouvement et malgré tout, il y a toujours cette structure qui est là, qui est très importante. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à... qui ont intuitivement accès à la structure, à la grammaire de la langue, mais qui ne comprennent pas forcément l'implicite. Enfin, dans nos populations ici, sur notre territoire, dans l'Aisne et puis en Picardie, il y a beaucoup d'illettrisme. Et c'est vrai que je trouve ça important aussi d'agir pour ces populations-là, pour que tout le monde puisse s'approprier une langue et être mieux, en fait, maîtriser sa vie parce qu'on maîtrise mieux la langue.
Mais vous avez tout à fait raison. Et je pense que l'entrée la plus importante, c'est le plaisir. C'est
oui.
Le plaisir de la langue.
Oui, oui.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Vous ne savez pas parler, vous ne parlez pas bien, vous devriez parler. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, jouez avec votre langue, vous l'avez, vous avez parlé d'intuition,
oui,
intuitivement,
tout
avez-vous
fait.
Dit. Et c'est exactement ça. Et tout d'un coup, c'est de se retrouver face à... Il y a 60 dispositifs immersifs. Donc, vous
oui.
imaginez, quand je parle
ah,
d'attraction,
oui.
je
ah,
parle
c'est
vraiment
ça, c'est
de...
Ça, donc dispositif
où les gens
immersif.
Vont pouvoir vraiment jouer, être en interaction avec toutes sortes de propositions. Donc, ça s'adresse à tous les âges
ça
et à toutes les populations.
Ça peut être des propositions sur la musique, des propositions
tout à fait.
Sur... oui.
On va parler du rap aussi
oui.
bien du théâtre que du théâtre. On parlera aussi du français de la loi, puisque, comme je le disais, le français a été... créer, j'allais dire, le mot est absurde, mais François Ier a décidé que le français serait la langue de France pour la loi dans un premier
oui.
temps. Donc nous en parlerons aussi.
Pour le droit à l'administration, pour que ce soit intelligible pour tous.
Oui. Donc nous parlerons également de ça et on s'aperçoit effectivement qu'on en sait beaucoup plus sur notre langue qu'on ne le croit.
Oui. On va écouter Serge Gainsbourg, la chanson « En relisant ta lettre ». Alors nous sommes en compagnie de Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française. Et donc j'avais très envie d'écouter « En relisant ta lettre » de Serge Gainsbourg, parce que ça a vraiment un beau lien avec la langue française.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte. Ça, c'est correct. Au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur. Là, y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un. Cachet au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras. Tour ton ballot, le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Alors nous sommes aujourd'hui avec Paul Rondin, directeur de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts, et nous sommes en train de discuter, donc de découvrir cette cité internationale, et nous allons découvrir un petit peu tous les ateliers qui vont être proposés dans cette cité internationale de la langue française.
Alors, au-delà donc de ce qui se visite, c'est, on se l'est dit, une place publique, un endroit public, un lieu de vie, un endroit où chacun doit pouvoir trouver quelque chose ou se promener. Et nous avons prévu donc des espaces partagés. Ces espaces partagés qui sont dans le logis royal, hein, qui sont plusieurs grands espaces, vont pouvoir accueillir ce que vous avez appelé des ateliers.
Oui.
C'est-à-dire ce qu'avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, nous aimons appeler une coopérative de solutions.
Oui, c'est très positif, trouver des solutions.
C'est exactement ça, le terme leur revient, hein. c'est eux qui l'ont inventé, mais l'équipe à la Cité l'aime beaucoup. Cette coopérative de solutions, c'est au fond se dire que dans ces espaces partagés, qui seront en accès libre, évidemment, organisés, mais où les associations pourront venir librement, nous pourrons travailler sur des ateliers de lecture, sur, pourquoi pas, de l'accompagnement en lien avec la Maison France Service, sur l'accompagnement à l'écriture de lettres, aussi à l'électronisme, c'est-à-dire les gens qui sont un peu perdus sur Internet. Or, nous en avons besoin pour des raisons strictement administratives. Vous voyez, on rejoint toujours finalement le désir de François Ier de rendre accessibles et possibles tous les moyens. Et ça passe par le français, par la maîtrise de sa langue.
Tout à fait. Et c'est impressionnant parce que dans nos sociétés, on a tellement besoin de l'écrit. Tout ce qui a été informatisé, en fait, maintenant, nos concitoyens, enfin nous-mêmes, on a tout le temps besoin de savoir lire, enfin de lire et de lire, de comprendre finement les choses, puisqu'on clique sur des choses qu'on accepte, etc. Il y a beaucoup de contrats dans tous les sens, que ce soit avec notre assureur et sur Internet, voilà, donc c'est tellement important, c'est vrai.
C'est primordial.
Finement,
c'est primordial.
Les choses.
Et de ce fait, si vous voulez, c'est à la fois du service, hein, comme je le disais, mais aussi de la découverte, et pourquoi pas, au-delà de ça, par la langue, des activités plus éloignées directement, ou en tout cas apparemment de la langue. On se disait qu'on aimerait que des ateliers d'escrime intergénérationnels. Alors pourquoi l'escrime ? Parce qu'il y a une tradition à Villers-Cotterêts, et puis parce que Alexandre Dumas, parce que les mousquetaires. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui traverse l'histoire, le ressenti, la vie des habitants puissent trouver sa place
dans la cité. Et il y a un côté aussi, dans l'escrime, il y a un côté théâtral de films de KPDP et de... Oui.
Et qui est parfaitement assumé dans le rapport à la littérature, à la langue et à ces histoires populaires. Et puis au-delà de ça, je pense que nous irons vers des ateliers qui auront plus à voir avec l'apprentissage du français, pour les allophones notamment, avec aussi un travail sur l'insertion.
Ou les personnes en recherche d'emploi,
absolument.
Ou les personnes en insertion.
Nous travaillons absolument avec tous les acteurs de l'insertion et de l'emploi du territoire. C'est aussi une manière de se réunir, de se retrouver. Alors, ça ne prend pas la place de ce qui existe déjà, surtout pas. Une fois encore, le dénominateur commun, c'est la langue. Mais ça vient en complément. Et ce complément, qui n'en est pas un, parce que vous l'avez dit, c'est essentiel. C'est le ferment de notre société, voire même de notre humanité, la langue. Si on n'arrive plus à se parler et à s'écouter, ça ne marche plus. Donc, c'est se dire que la cité sert à cet endroit-là des associations qui font un travail socioculturel par ailleurs.
Et elle sert quelque part à créer de nouveaux ponts, peut-être, de nouvelles rencontres, faire des maillages différents qui n'existaient pas, peut-être.
C'est exactement ça. Vous savez, on est dans un pays... des acronymes et des dispositifs.
Tout à fait, les acronymes.
Voilà. Alors les acronymes, demandez.
Je suis un peu fâchée avec les acronymes.
Ah ben c'est terrifiant. demandez à un étranger qui arrive, qui maîtrise le français, de comprendre les acronymes que nous utilisons, mais il devient fou. Moi, j'ai un camarade portugais qui récemment me dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait un dictionnaire des acronymes,
mais
puisque personne n'y comprend rien.
Il pourrait y avoir des jeux de société sur les acronymes ou des jeux très ludiques sur les acronymes.
Ça serait difficile. Hein. Ça serait très difficile.
Des mémories.
Les acronymes et l'autre problème, c'est les dispositifs. Voyez ce que c'est, les dispositifs. Tout le monde, chacun a son dispositif. Or, pour rejoindre absolument ce que vous disiez, la cité doit être un endroit où les gens vont me détester, où on laisse les dispositifs à l'extérieur et on vient pour se rencontrer, pour inventer, à partir une fois encore de la langue, ce qui fait le ferment social, de nouvelles manières,
solutions,
de nouvelles pratiques.
Et de nouvelles solutions.
Et de nouvelles solutions.
Ouais, très bien. Je comprends un peu mieux cette cité. En tout cas, ça donne très envie d'y aller. Alors moi, je suis particulièrement sensible à tout ce qui est peinture. Donc il y aura peut-être des liens aussi avec des œuvres d'art, de la peinture, de la sculpture.
Bien sûr.
Et il y aura la musique, j'imagine, bien sûr. Vous faites entrer aussi le cinéma, peut-être, dans...
Alors, la peinture, les arts visuels, comme vous le disiez, bien sûr. Je n'ai peut-être pas précisé qu'il y a 400 mètres carrés d'exposition temporaire aussi dans le château. Donc, ils
nous
permettront de montrer, effectivement, de faire, de créer, de produire des expositions qui seront en lien avec la langue, mais... par les arts visuels.
Oui, c'est toujours très intéressant de...
Bien sûr. Et sur la question musicale que vous évoquez également, évidemment, on vient d'entendre cette magnifique chanson de Serge Gainsbourg. la chanson est un des plus beaux véhicules de la langue, oui. Est une chose extraordinaire parce que, qu'on la maîtrise ou pas, cette langue française, on sait tous
La chanter.
On est pris parfois par une émotion exagérée en entendant une pauvre chanson dans un supermarché, tellement elle évoque deux choses immédiatement. C'est vraiment l'intelligence sensible de la langue.
Là, oui, tout à fait. Il y a le côté sensoriel qui nous atteint, en fait, avec la chanson, et puis qui nous amène, qui nous emmène vers la poésie aussi.
Absolument. Et vous savez, ce qui est c'est intéressant que vous employiez le terme poésie qui revient un petit peu à la mode. J'aime pas le terme à la mode, et pardon pour la pauvreté du terme, mais qui tout d'un coup n'est plus cette chose ringarde un peu pour des gens à cheveux longs et obscurs, mais au contraire revient dans le quotidien. Et il faut rendre grâce aux rappeurs et aux rappeuses qui sont les premiers et les premières à avoir réutilisé, réinvesti le terme de poésie et de poète. « Je suis un poète », disent-ils souvent.
Tout à fait, et on étudie parfois même des textes de rappeurs dans les cours de littérature française, au collège ou au lycée, et c'est vrai qu'ils ont réussi ça, rien que de faire des vers, de parler en vers en fait, ça apporte beaucoup, ça apporte aux jeunes, et ça rend cette poésie accessible aussi aux jeunes.
Et quand on entend parfois la langue française va mal, la langue française n'est plus maîtrisée ou utilisée par les jeunes générations, on oublie toujours de préciser, et c'est souvent des gens qui n'y connaissent pas grand-chose d'ailleurs, que la première pratique culturelle des jeunes Français et des jeunes francophones d'ailleurs, ce qui fait quand même quelques millions de personnes, la première, massivement, c'est l'écoute du rap.
Oui.
Donc, d'une écriture en français, c'est écrit en français, c'est écouté en français, c'est chanté en français. Donc, oui, la part de la musique, de la chanson...
De la musique.
On pense aussi à Alain Souchon, à Linda Lemay, que sais-je. Et du rap seront évidemment des déterminantes dans la programmation. Et puis, le théâtre, pourquoi pas. Des lectures, c'est toujours magnifique, des lectures de grands livres. Et n'oublions pas non plus l'humour.
L'humour, et j'allais dire aussi, est-ce qu'il y aura... Alors l'humour, bien sûr, parce que c'est jouer sur les mots, jouer sur la langue, c'est le propre de l'humour. Enfin, c'est extraordinaire, parce qu'on découvre, chaque mot par l'humour. C'est vrai que les humoristes, ce sont vraiment des personnes tellement habiles avec les mots. Et peut-être aussi, est-ce qu'il y aura des choses par rapport à tout ce qui est jeux vidéo? Et aussi, quelque chose qui me touche, tout ce qui est autour de la bande dessinée et du roman graphique.
Alors, le jeu vidéo en tant que tel, d'abord, c'est souvent une pratique individuelle, même si les gens peuvent se regrouper parfois. On a envie beaucoup de le travailler sous la forme d'ateliers en direction de public plutôt scolaire. C'est-à-dire de passer par la création de jeux vidéo pour utiliser la langue et voire pour réinvestir une histoire ou des histoires qui ont à voir avec la langue française, mais de manière ludique.
Donc là, les élèves seraient vraiment acteurs, actifs dans leur apprentissage, et de pouvoir réinvestir ça dans un jeu vidéo, ça sera très attrayant pour eux. C'est vraiment très, très intéressant. Très intéressant, parce qu'on a tendance à oublier, mais c'est une grosse, grosse partie de la culture populaire, les jeux vidéo.
Bien sûr.
Une énorme partie, et une énorme partie économique aussi, le jeu vidéo. Et c'est important que la langue française investisse... dans ce domaine-là.
Et votre deuxième question, c'était sur la bande dessinée.
Oui, tout à fait.
Et la bande dessinée...
Je trouve merveilleuse aussi sur la langue française.
C'est diabolique parce que je discutais ce midi avec des collègues et on parlait d'Astérix. C'est pas très original. Mais on a un parc pas très loin d'ici, comme vous le savez.
Tout à fait.
Et on imaginait la difficulté et en même temps le plaisir pour les traducteurs d'Astérix, qui est la bande dessinée la plus traduite dans le monde, quasiment, de traduire les jeux de mots de Goscinny dans toutes les langues, y compris les noms des personnages qui sont eux-mêmes des jeux de mots.
Et les citations littéraires, revisitées, il y a tellement de choses.
Mais c'est jouissif à un point extraordinaire. Donc nous rêvons, par exemple, qu'Astérix vienne à la cité. Bien sûr qu'il a sa place, parce que l'exemplarité de l'utilisation de la langue, du jeu avec la langue, est extraordinaire.
En tout cas, bravo pour toutes ces ces pistes, ces différentes entrées sur la langue française. On va écouter justement du rap, on va écouter MC Solar et on va écouter Caroline d'MC Solar.
Sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tcherno débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Biromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégo, je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent, dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Carreau, l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline.
Aujourd'hui, nous accueillons Paul Rondin, le directeur de la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts. Et on avait vraiment une question importante. On voulait savoir si, au sein de la Cité, la radio et les radios locales avaient leur place.
La réponse est évidente, oui. Parce que la radio. Alors, moi, à titre personnel, je suis un amoureux de la radio, parce que je trouve
vous
que
parlez à une amoureuse de la radio.
Je pense que nous sommes ici, au moins dans ce studio, tous amoureux de la radio. Le fait est que c'est le rapport à l'écoute que j'évoquais un peu plus tôt qui est tellement important. C'est-à-dire que quand on écoute la radio, on ne fait qu'écouter. Et donc l'imaginaire fonctionne comme quand on lit. On a encore une part d'imaginaire qui peut fonctionner, alors que quand vous avez et l'image et le son, quand même, ça réduit votre propre imaginaire. J'adore le cinéma, j'adore toutes sortes de productions audiovisuelles, mais néanmoins, à la radio, il y a quelque chose en plus qui est notre propre imaginaire. On n'attend pas tout de ce qui vous est fourni. Vous devez travailler dans le plaisir, mais vous devez exister en tant qu'individu.
Quand il y a l'image et le son, il y a une sorte de gavage, en fait.
Je vous laisse la maternité du terme gavage pour le cinéma international
et
français.
Pas pour le cinéma, mais non, c'est parce que dans les maisons, souvent, il y a plusieurs écrans qui fonctionnent en même temps, qui sont dans les chambres des enfants et qui fonctionnent tous en même temps, pas forcément sur les mêmes émissions.
Mais la question de l'écran, en fait, est la vraie question.
Oui, c'est la question de l'écran. Je parlerai plus d'écran, tout à fait. Donc en tout cas, on est ravis de savoir que la radio a bien sûr sa place.
Et vraiment, puisque la radio doit parler, doit donc faire que la langue française s'entend et s'exprime, et doit être aussi ce qui permet à la cité internationale d'être entendue bien au-delà de son propre territoire.
Oui,
donc les radios ont leur place à la cité.
Quelle chance actuellement d'avoir bien sûr tout ce qui est podcast pour pouvoir écouter des émissions à travers le monde.
Et je précise d'ailleurs qu'il y a un studio son prévu à la cité même.
Très bien, très bien. Alors on va un petit peu aussi vous parler de tout ce qui est des autres espaces, mais qui sont importants quand même dans les lieux de culture. Donc j'imagine qu'il y aura aussi une boutique.
Oui, alors je préfère dire qu'il y a une librairie et dans laquelle on pourra aussi acheter quelques objets.
D'accord.
Mais il y a surtout des livres pour tous les âges. Livres jeunesse, littérature plus scientifique sur la langue, mais aussi romans.
Romans graphiques.
Romans graphiques, évidemment.
Bon, bah, très bien. Donc j'irai régulièrement donc dans cette librairie.
Donc nous avons déjà une cliente de la librairie. Je vous remercie.
Et est-ce qu'il y aura aussi un espace restauration ?
Oui, bien sûr. Parce que, comme je le disais, ça doit être un lieu de vie, ça doit être un lieu très agréable. Et moi, je veux qu'on puisse venir dans ce château, dans cette cité, pour boire un café ou manger un morceau. Donc oui, il y a un café dans le logis royal.
Un café, donc, qui sera ouvert.
Qui sera ouvert pendant les heures d'ouverture, évidemment, de la cité. Et qui, au beau jour, aura aussi une terrasse. Donc on pourra s'asseoir dans le château, dans le jardin de la reine, et boire un thé glacé.
Alors justement, on parlait des horaires. Vous parliez des horaires donc du restaurant, de la restauration. Les horaires donc du château, le jour de fermeture. Il y a un jour de fermeture dans la semaine.
Absolument. Alors le château sera ouvert du mardi au dimanche. Donc vous comprendrez, le jour de fermeture, c'est le lundi.
Le
lundi. Donc 6 jours sur 7, toute l'année, bien entendu.
Toute l'année.
Et de 10h à 18h à peu près.
D'accord.
Avec on a ajouté pour les groupes scolaires une amplitude un peu plus large, c'est-à-dire dès 9h du matin, ils pourront venir de manière à absorber les groupes scolaires et à leur donner un peu plus d'espace.
D'accord. De visiter les collections permanentes, etc. Je pense qu'il y a un prix pour rentrer, un tarif, pardon, pour rentrer.
Oui, bien sûr. Le plein tarif est de 9 euros, mais il faut savoir que le Centre des Monuments Nationaux, donc, qui a la gestion de cette cité internationale, est très généreuse. C'est-à-dire, les moins de 26 ans ne paient pas.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une particularité très positive des
les minima sociaux,
des
les gens
nationaux.
Qui bénéficient des minima sociaux, évidemment, ne paient pas non plus.
Mm-hmm.
Donc, là, je vous parle vraiment d'un tarif plein qui va concerner.
D'accord, mais c'est important de le connaître.
Bien sûr.
C'est important de le connaître. Très bien. Et puis, je voulais savoir aussi, vous êtes présent sur les réseaux, j'imagine. Dès aujourd'hui, j'imagine.
Oui. On essaie de relayer et de faire monter la curiosité pour cette cité en racontant quelques histoires sur les divers réseaux que vous connaissez, qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde.
Bien sûr. Et alors, la dernière question, c'est de savoir quand est-ce que cette cité, la Cité internationale de la langue française, va ouvrir.
Très bientôt.
Très bientôt.
Nous sommes encore en chantier. Je ne veux pas partir avec une pirouette, mais le chantier se passe bien. J'aime bien dire juste un peu de patience. Vous savez, une fois encore, ce château, il a été fermé au public pendant 500 ans.
Oui.
Ça fait 4 ans qu'on le restaure. Vous verrez, le travail est sublime. Les compagnons, les centaines et centaines d'artisans qui sont venus sur ce chantier ont fait un travail remarquable. Donc, nous, on a envie que leur travail soit célébré et donc soit bien terminé. Après l'été, probablement aurons-nous fini et D'accord. le chantier sera-t-il livré. Donc, nous espérons bien qu'après l'été, à l'automne, probablement, le château puisse ouvrir à tous les publics.
En tout cas, merci beaucoup, Paul Rondin, pour votre venue. Et vous avez répondu à de nombreuses questions. Et surtout, vous nous avez vraiment donné envie de rentrer dans cette cité, de découvrir cette cité. Merci aussi, Frédéric, à la technique. Et à très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission et à très vite à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts.
Merci à vous.
Et je vous laisse en compagnie de Pomme et de son titre « Anxiété ».
Je suis elle qu'on ne voit pas. Je suis
de sel. Une émission de la rédaction. Grain de sel.